Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui au sommaire, le Pakistan.
Eh oui, ces deux plus puissants voisins l'accusent depuis quelques jours de déstabilisation terroriste. Le Pakistan lui-même se cherche des partenaires et modèles de développement chez des pays plus lointains. Ce n'est pas le moindre paradoxe de la politique étrangère du Pakistan depuis l'élection d'Imran Khan il y a 6 mois exactement. Alors, clé de la guerre ou porte sur la paix ce pays? On voit ça avec vous, Georges Lefeuvre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes anthropologue, ancien diplomate européen et consultant, désormais spécialiste du Pakistan et de l'Afghanistan. Le Pakistan, en tout cas, bien au centre du jeu régional ces derniers jours, voire continental, puisque c'est là que depuis hier, le prince héritier Mohammed Ben Salman vient de commencer sa tournée asiatique. 20 milliards de dollars de protocoles d'accord ont été signés hier. Ce n'est pas rien, a dit le prince. Alors, qu'est-ce qu'il faut souligner de cette visite d'abord, selon vous? Est-ce que c'est la réunion de deux parias ou quasi-parias, comme l'ont dit certains, ou plutôt les aspects économiques et financiers, ce rapprochement très fort?
Oui, d'abord, je dirais que le Pakistan, au milieu d'un grand jeu des influences des grandes puissances, que soit la Chine, la Russie, l'Asie centrale et bien sûr le monde occidental, l'Amérique de Trump, ne date pas quand même du Premier ministre Imran Khan. Ceci dit, pour revenir à votre question... Oui, bien sûr, nous ici, nous avons l'ombre de l'affaire Khashoggi sur le fameux journaliste qui a été assassiné, qui porte une ombre quand même sur le prince Mohammed Ben Salman. Je pense que les Pakistanais passent outre tout cela parce qu'ils ont toujours eu d'excellentes relations depuis longtemps avec l'Arabie Saoudite et qu'ils ont en plus une situation économique extrêmement difficile et qu'ils ont besoin des pétrodollars de l'Arabie Saoudite. Lorsque Imran Khan a pris le pouvoir l'été dernier, il faut savoir que le déficit commercial du Pakistan était de 20 milliards. Comme par hasard, c'est à peu près la même somme qui a été négociée hier sur différents projets de coopération dans beaucoup de domaines. Mais surtout, il y a eu, lorsqu'Imran Khan a pris le pouvoir, il a eu une urgence. C'est que le pays était au bord de la banqueroute. Il avait peut-être 3 ou 4 semaines devant lui pour assurer différents paiements. Et avant de faire appel au FMI, il a fait appel au FMI, mais les conditions d'un emprunt auprès du FMI peuvent être un peu rudes, puisque le Pakistan avait déjà emprunté au FMI en 2013, c'est donc assez récent. Alors le temps de faire cette négociation avec le FMI, Imran Khan a décidé de demander l'aide des pays amis. Et donc il avait fait une visite en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite lui a prêté 6 milliards de dollars, et les États Arabes Unis lui ont prêté également de l'argent. Donc il y a également une urgence économique qui vient s'ajouter à une vieille tradition de coopération et de soutien politique entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan.
Et alors vous avez quand même souligné cette situation de crise ou quasi-crise financière très importante. C'est vrai qu'il y a eu ce refinancement de la part des pays du Golfe. Il y a aussi toujours cette question qui n'est pas qu'une question, mais un projet CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. Encore une fois, là, qu'est-ce que vous souligneriez? La capacité diplomatique économique de Imran Khan dans cette situation difficile, ou simplement que économiquement, il est en train de fuir, entre guillemets, le FMI?
Il est en train à la fois de fuir peut-être le FMI, ou du moins de retarder le temps d'une décision qui se ferait à des conditions qui ne seraient pas trop rudes pour les remboursements. Mais de toute façon, ce soutien politique de l'Arabie Saoudite, il en a besoin. Bon, c'est une très vieille histoire. Au fond, lorsque les talibans, c'est vieux cette histoire de 1994, c'était l'époque de Benazir Bhutto, lorsque les talibans ont été lancés, ont été mis en orbite en 1994, c'était déjà, et beaucoup avec le soutien de l'Arabie Saoudite, qui était ravi de voir un régime sunnite fondamentaliste s'installer sur le flanc oriental de son vieil adversaire, donc qui est l'Iran. Voilà. Alors, je sais très bien que les choses ont beaucoup évolué depuis, qu'on a eu des politiques non désirées de l'arroseur arrosé, le Pakistan lui-même a parfois perdu le contrôle des groupes qu'il avait nourris, mais l'Arabie Saoudite aussi. Donc il y a un petit peu une reprise des considérations. On va en revenir sur les fondamentaux. Et le Pakistan a besoin de l'Arabie Saoudite. Et puis le Pakistan, vous savez, c'est un pays normalement séculier, mais où la pression populaire de l'islam est extrêmement forte. Et si Imran Khan qui est l'ancien jet-setter, très connu des milieux de Londres, est devenu quelqu'un qui apparaît au moins comme beaucoup plus conservateur, c'est justement parce qu'ils ont besoin de l'Arabie Saoudite économiquement, mais politiquement aussi.
Oui, et vous avez parlé de l'Afghanistan. À cet égard, un détail qui n'en est pas un dans le contexte de négociations, cette fois-ci directes, entre talibans, États-Unis, peut-être gouvernement de Kaboul. Les talibans avaient annoncé le 13, à l'invitation, disait-il, du gouvernement du Pakistan, une réunion entre les équipes de négociateurs, voire MBS. Finalement, ça ne s'est pas fait, ça devait être aujourd'hui. Comment vous interprétez ce fait ? C'est une disqualification, on va dire, du Pakistan ?
C'est pas véritablement une disqualification, mais disons que le processus qui avait démarré à quatre partenaires, qui étaient la Chine, les États-Unis, l'Afghanistan et le Pakistan, avait plus ou moins capoté, on s'en souvient, en 2015, lorsque les conversations, les négociations qui devaient se tenir à Murray avaient capoté. Ensuite, il y a eu d'autres processus de Tashkent, de Kaboul, etc. Mais les deux grands concurrents, je dirais, challengers, les deux grands concurrents pour le règlement de la question afghane, c'est bien entendu Trump d'un côté, via le Qatar, et c'est également, Poutine, dont toute la sphère d'influence, c'est également toute l'Asie centrale qui est juste au nord de l'Afghanistan, Poutine qui de son côté développe une autre stratégie qui passe par Moscou. Et là pour l'instant ce sont parmi tous les processus de paix les deux grands processus de paix qui ont quand même quelque chose d'invraisemblable, d'incroyable, c'est que lorsqu'on voit la dernière rencontre qui a eu lieu à Moscou, la délégation des talibans venait du Qatar, est arrivée à Moscou, et la délégation afghane, c'était une délégation où il n'y avait que des membres de l'opposition au régime actuel du président Ashraf Ghani. Ce qui veut dire que, comme les talibans ne veulent pas négocier avec Ashraf Ghani, qu'ils considèrent comme étant un gouvernement entre les mains de Washington, ils négocient avec les Américains, ils négocient pas la paix d'ailleurs, ils négocient les conditions à partir desquelles ils accepteraient de négocier. C'est quand même tout à fait différent. Mais il est vrai que l'envoyé spécial américain qui rencontre les talibans au Qatar rend compte régulièrement de ses visites au président de la République afghane, Ashraf Ghani. Donc si Ashraf Ghani n'est pas dans la boucle des négociations, il est au moins dans la confidence. Ouais. Ce qui s'est passé à Moscou, c'est tout à fait l'inverse. Moscou a reçu l'ancien président Karzai, et en fait, tous les personnages importants du premier gouvernement provisoire d'Afghanistan, juste après les accords de Bonn en 2001, après la chute des talibans, c'est-à-dire en gros les gens de l'Alliance du Nord, etc., qui sont dans une opposition assez farouche. Donc on contourne le pouvoir officiel, et voilà. Et entre les deux, eh bien, les talibans sont tout à fait à l'aise, et ils n'ont pas besoin d'aller chercher d'autres terrains secondaires, je dirais, presque, de négociation.
Et donc pas forcément de disqualification non plus d'Islamabad dans ce processus, on le comprend. Alors, toute dernière chose, on n'aura pas le temps de tout évoquer dans le détail en deux minutes, mais il y a eu ces deux attentats coup sur coup, coïncidence, on pourrait dire, contre du personnel militaire iranien et également contre du personnel militaire indien dans le Cachemire. Deux attentats très importants. Crispation nouvelle, est-ce que vous diriez, ou alors vieille affaire, ces accusations d'entretenir les groupes terroristes, pour le dire de manière courte?
Eh bien, je dirais que c'est quand même une vieille affaire. Je dirais d'abord pour l'Iran, le groupe qui a revendiqué ça, c'est Jaish-ul-Adil. Bon, c'est donc l'armée pour la justice. C'est la renaissance de l'ancien Jandullah. Alors Jandullah, c'est donc l'armée de Allah. C'est un groupe qui est installé dans le Baloutchistan et séistan iranien. Alors, la zone séistan-baloutchistan iranien, ce sont des gens qui sont sunnites et qui ne supportent pas la tutelle chiite du guide suprême. Et d'ailleurs, dans leurs revendications, ils ont dit qu'ils luttaient contre Vilayat i Faqih, ce qui veut dire la tutelle de la jurisprudence du guide suprême.
Bon, ça c'est une
donc,
première chose.
C'est une affaire plutôt irano-iranienne.
Par contre,
nous sommes dans le désert. Et les gens de Jandullah, lorsqu'ils font un mauvais coup, comme ils en ont fait déjà à Zaïdan, etc., ils peuvent se replier sur le Pakistan, dans le désert du Pakistan, sans aucune difficulté véritablement. Donc je dirais de ce côté-là, rien de nouveau. Côté indien, c'est plus... Allô ?
Oui, on vous entend.
Côté indien, c'est plus grave quand même, parce que, vous savez, le Jaish-e-Mohammed, qui a revendiqué l'attentat, qui a quand même fait une quarantaine...
Allô, allô, est-ce que vous nous entendez, Georges Lefebvre ?
Je vous entends.
On vous entend, 44 morts, oui, c'est ça ?
Oui, voilà. Eh bien, cet attentat qui a été revendiqué par le Jaïch-e Mohammed, là, le Jaïch-e Mohammed est clairement un groupe qui a été créé au Pakistan en 1999. Alors, ouais, dire que l'État pakistanais a commandité cet attentat, c'est aller un peu vite, parce que le Jaïch-e Mohammed, comme le Lashkar-e-Taiba, ont essaimé depuis longtemps dans la partie de l'Inde qu'ils combattent, et particulièrement et voilà. Évidemment, le Cachemire.
Et on suivra ces développements. Je suis désolé de vous couper, Georges Lefebvre. Je dois rendre l'antenne, mais on a bien compris, le Pakistan pas forcément responsable et qui active ses groupes. Merci. Bonne journée.